Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous revenez sur la courte introduction à la pensée de Frédéric Hayek, qui vient de paraître dans la collection Le bien commun chez Michalon, l'influence de ce penseur qui était loin d'être uniquement un économiste, a exercé à certains moments une influence contestée.
C'est vrai, quoi qu'il ait obtenu le prix Nobel d'économie en 1974, Thierry Aymard, l'auteur de ce livre que vous rappeliez, rappelle lui fort opportunément que durant les années 30, deux économistes ont dominé les débats, en s'opposant sur les causes de la crise de 29 et donc sur les moyens à déployer pour y remédier. Vous aviez d'un côté Keynes, qui démontrait que les forces du marché livrées à elles-mêmes étaient dans l'incapacité d'assurer le plein emploi, contrairement à ce que prêchait alors la théorie classique. Il préconisait, en conséquence, d'agir sur la demande, en augmentant à la fois les revenus et la dépense publique. Quant à la politique monétaire, elle n'était à ses yeux que la servante de cette politique budgétaire expansionniste. Keynes suggérait même, avec sa fameuse expression de « l'euthanasie du rentier », que l'inflation, probablement entraînée par ces politiques dites de « relance budgétaire », n'était pas forcément une mauvaise chose. Mais de son côté, Hayek attribuait l'origine de la fameuse crise, non pas à une insuffisance de la demande, mais au contraire à l'excès du crédit. Lorsque les taux d'intérêt sont maintenus artificiellement bas durant une longue période, disait-il, les consommateurs, comme les entrepreneurs ou les investisseurs, sont tentés de s'endetter de manière exagérée. Et comme l'épargne est peu rémunérée, nul n'est incité à mettre de l'argent de côté. L'euphorie est mauvaise conseillère. On achète à tour de bras en s'endettant pour pas cher, des actions, des maisons. Pourquoi se priver puisqu'on est sûr de revendre n'importe quand en empochant un substantiel bénéfice. Et il se crée ainsi des bulles spéculatives.
Et ce que suggère Thierry Aymard, donc dans son livre consacré à la pensée de Frédéric Hayek, j'ai un peu de mal, c'est que nous ne sommes pas sortis de ce débat, Brice.
Mais au contraire, il a ressurgi à propos de la crise de 2008. Pour les partisans de Keynes, les économies occidentales ayant failli s'effondrer, il faut pour s'en sortir un coup d'accélérateur sur les dépenses publiques. Et comme les États sont déjà très endettés, il faut leur permettre de continuer à le faire à des taux très bas. D'où cet appel au secours adressé aux banques centrales. Non seulement celles-ci sont invitées à écraser leur taux d'intérêt, mais elles rachètent discrètement une partie de ces dettes publiques. Mais voilà que le débat Hayek-Keynes ressurgit. Car pour les partisans de Hayek, cette politique de déficit budgétaire et de liquidité surabondante, ça s'appelle de la fuite en avant. Dans l'espoir d'empêcher le déclenchement de la dépression qui menace, on se contente de la retarder, au risque de l'aggraver sévèrement quand elle éclatera. Pour Hayek, le taux d'intérêt est censé ajuster, je cite, « l'offre d'épargne réelle à la demande d'investissement ». En l'abaissant artificiellement, afin de satisfaire la boulimie de l'État, on envoie aux acteurs économiques de fausses informations sur la disponibilité réelle en capital. Or, pour Hayek, on doit faire confiance aux acteurs économiques pour adapter rationnellement leur comportement. Mais oui, seulement dans la mesure où ils disposent des bonnes informations sur l'état du marché. Et les prix sont précisément ces signaux. Je cite ici Thierry Aymard. « Quand l'illusion monétaire se dissipe et que le réel s'impose finalement, il est trop tard pour réagir. » Seulement voilà, comme l'écrivait cette fois Hayek lui-même, il n'est pas surprenant que les hommes désirent éluder le choix pénible que la réalité leur impose. Et au passage, les banques profitent de largesses destinées aux États pour se procurer d'énormes masses d'argent de frais à des taux ridiculement bas. Pourquoi se gêner encore une fois? Pour Hayek et ses disciples, ce sont les banques centrales qui sont les principaux responsables des crises actuelles. Pendant et après la guerre, Hayek, qui était devenu citoyen britannique et enseigné à la London School of Economics, était tombé quelque peu dans l'oubli. Le libéralisme qu'il incarnait était devenu démodé. Les politiques de reconstruction et la nécessité surtout de développer les États-providence modernes ont fait alors de Keynes le prophète des temps nouveaux. Alors même que John Maynard Keynes lui-même se tuait à la tâche en menant des négociations difficiles pour le compte du gouvernement britannique. Paradoxalement, cet économiste est devenu de nos jours la référence de tous les sociaux-démocrates alors qu'il appartenait de son vivant au parti libéral et non pas au parti travailliste. Mais à la fin des années 70, lorsque les politiques dites de relance s'avérèrent incapables de booster la croissance, lorsque la Grande-Bretagne en particulier se débattait dans la fameuse stagflation, conjuguant les inconvénients de la stagnation et ceux de l'inflation, c'est Hayek qui redevint à la mode. On sait, Margaret Thatcher imposait la lecture à ses ministres. Pour autant, comme le rappelle Thierry Aymard, Hayek lui-même ne se considérait nullement comme un conservateur. Il comptait sur le marché pour faire sauter les rentes et les privilèges installés.